Du 21 au 28 août, c'est les 37e rencontres cinéma de Jindou.
Joli village de Jindou. Et alors avec votre accent, ça fait Jindou. Je me disais, mon Dieu, ils ont des gens qui sont doux, c'est bien ça.
En salle ou sous les étoiles, d'archives en avant-première, de cours en long métrage, on vagabonde d'idées en réalité, tout en faisant le tour du monde en images avec des films présentés par ceux qui les font, et ainsi rencontrer ces raconteurs d'histoires lors des tchatches quotidiennes.
C'est des films qui peuvent se lire à plusieurs niveaux.
Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, une image est une idée. Hein. Mm-hmm. C'est plusieurs idées même, c'est une série de signes, donc ça parle du monde. En fait, c'est faire du cinéma, c'est participer du travail intellectuel collectif de l'humanité, je veux dire, bien entendu. Donc c'est vrai que le cinéma est une des manières.
Durant le festival, Antenne Doc vous livre le programme en détail le matin à 9h. Et à 19h, retrouvez les réalisateurs, publics et autres personnes présentes sur les rencontres cinéma.
Je dis toujours que toute sa vie, on devrait rester nomade de l'interrogation plutôt que sédentaire de la certitude.
Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire même à un niveau individuel, tous les jours, se reposer la question tous les matins quand on se réveille, de se demander qu'est-ce que c'est que notre action sur le réel dans lequel on est, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait.
Sur place, de quoi se restaurer, lire avec la librairie de Saran, des apéros-concerts et plein d'autres choses encore à découvrir durant les 37e rencontres cinéma de Jindou du 21 au 28 août. Pour retrouver toutes les infos sur les rencontres cinéma de Jindou, direction la toile internet à l'adresse jindou.org.
Pour cette séance, je vous présente Sven De Pau, le réalisateur du film que vous allez voir, qui lui s'appelle Maître. Merci Sven d'avoir traversé la France pour venir nous voir et présenter ton film. Traverser la France parce que toi tu es à Strasbourg et nous connaissons pour la fois précédente où tu étais venu, un film que vous aviez peut-être vu ici, Le Divan du Monde. C'était en 2015. Nous étions dans le bureau d'un psychiatre. Et puis il y a eu un second long métrage qui s'appelle Comme elle vient, et puis ce nouveau film, Maître. Et voilà, Sven, je crois qu'on parlera de ce film demain après-midi ensemble, mais c'est vrai que j'ai envie de dire également que tu es ton propre producteur, pas loin d'être ton propre distributeur, mais enfin en tout cas tu cumules comme ça plein de fonctions, et puis même je crois même que à Strasbourg tu es très actif pour la cause du cinéma dans les salles. Voilà, encore merci d'être là. Je te laisse peut-être dire un petit mot.
Salut les jeunes. Merci d'être venu, c'est l'heure de l'apéro, il fait beau, donc moi ça me fait toujours plaisir de voir des gens en salle, surtout quand on filme à ce moment-là, je sais que c'est dur. Merci Seb, merci Jindou pour l'accueil, enfin, voilà, je suis revenu. Qu'est-ce que je peux vous dire que, ouais, à Strasbourg, la cause du cinéma elle est désespérée, donc on a besoin d'être hyperactif, et que non, je suis actif au niveau du cinéma à Strasbourg, mais ce que je voulais dire, c'est que je produis mes films, et puis j'ai distribué comme elle vient, mais c'est juste quand les autres ne veulent pas. Ça me permet, par rapport à d'autres gens, d'avoir l'air un peu sérieux, et d'avoir, je distribue mes films, je sais moi qui les produis, mais c'est surtout pour les rassurer, pour leur demander en gros de me faire confiance. Parce que je travaille sur des sujets qui peuvent être parfois pas super sexy, sur des sujets parfois un peu pointus, où les gens ils n'ont pas forcément envie de s'engager. Et tout, en fait, selon moi, n'est qu'une histoire de confiance. Et c'est-à-dire que j'espère que les collaborateurs à qui je travaille, à qui je demande de travailler gratuitement pendant des années, me font confiance. J'espère que mes producteurs et distributeurs me font confiance aussi sur la base de mon travail. J'espère que vous me faites confiance par rapport à ce que vous allez voir, parce que tout n'est qu'une histoire de confiance. Et moi, en tout cas, j'ai confiance en vous, à fond, pour venir tchatcher, venir poser des questions, venir demain, secouer tout ce qu'il faut secouer. Moi, j'ai confiance en vous sur qu'est-ce qu'on va faire tous. En fait, je suis chaud. En fait, Sébastien, je suis chaud. Et je suis chaud, et ce film, j'ai envie de vous le présenter parce que ça fait des années que je bosse dessus. Donc, le divan, c'était 15 ans de boulot. Là, c'est 7. Et en fait, j'en peux plus, quoi. En fait, j'en peux plus, j'ai envie de vous le montrer, j'ai envie que les gens ils le voient. J'ai envie que vous passiez, enfin, j'espère que vous allez passer un bon moment, mais même si c'est pas le cas, faites-le moi savoir, enfin, dites-moi, quoi. Juste secouez le truc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est là que j'ai confiance en vous, c'est qu'est-ce qu'on va tous faire collectivement de ce film, et qu'est-ce qu'on va tous faire collectivement de ces mecs qui sont, et de ces nanas qui sont à l'écran. Voilà. Donc je suis chaud et j'espère que vous êtes chaud. Merci.
Alors, un autre avocat a bien fait un recours gracieux.
Ouais.
Mais ce qu'il fallait faire, c'était un recours contentieux.
Il l'a oublié.
Eh ben voilà.
Voilà, il n'a pas fait son travail, quoi.
Et donc là,
il a ruiné le dossier, voilà. Mmh. Parce que c'est bien gratter de l'argent, mais moi, de l'argent, je ne le trouve pas. Moi, je me réveille à 4h du matin pour le gagner. Et là, je risque ma vie, je risque tout, il m'a ruiné.
C'est pas sûr qu'il aurait obtenu gain de cause, c'est pas sûr qu'il aurait obtenu l'annulation
mais,
de...
Mais au moins, je pouvais poursuivre mon chemin. Là, il m'a coupé tous les vannes. Et moi j'ai vécu 15 ans là-bas.
Bon, ça, je vous avais dit, quand on a des papiers italiens...
C'est des accords Schengen, j'ai la liberté de circulation.
Oui, mais que la liberté de circulation.
Exactement.
3 mois après, vous partez.
Eh ben, exactement.
Si vous voulez rester ici, il faut aller au commissariat de police.
Exactement, j'ai
et
fait.
Et dire, je viens d'arriver.
J'ai trouvé un travail. J'ai eu un contrat de travail.
Mais il faut
travail.
Le faire quand vous arrivez.
Oui,
pas
oui,
3
au
mois,
début.
6
début.
Mois après.
Ils ont refusé l'autorisation de travail.
Non, je ne parle pas de l'autorisation de travail. Concentrez-vous sur ce que je vous dis.
Oui.
Vous avez 3 mois pour circuler. Comment est-ce qu'on vérifie quand est-ce que vous êtes rentré? Et comment est-ce qu'on calcule le délai de 3 mois? On vous demande donc d'aller vous déclarer au commissariat de police. Et en plus, vous avez une interdiction du territoire. L'interdiction du territoire, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 2 ans? Ça veut dire que pendant 2 ans, vous êtes obligé de quitter l'Union européenne si vous voulez revenir.
Mais moi, j'ai quitté ma maison, j'ai quitté tout là-bas. J'ai fait un bail ici, j'ai mon travail ici.
C'est...
Comment je fais, moi? Je ne suis pas un objet, moi. On me prend, on me jette comme ça.
Nous sommes en compagnie de Sven De Pau à propos de ton film Maître, chez Loïc. Bonjour Sven.
Bonjour.
C'est un plaisir de te revoir ici à Jindou, après Le Divan du Monde. Deuxième exploit, deuxième film en huis clos, un autre bureau, une autre aventure. Alors, et celle-ci, je te laisse nous la présenter, cette deuxième aventure.
Bah écoute, ouais, j'étais là il y a 5 ans avec un film qui s'appelle Le Divan du Monde, il y a 6 ans maintenant, où je filmais les consultations des patients dans un cabinet de psychiatrie à Strasbourg, un cabinet privé de ville. Et là, cette année, enfin, depuis ce moment-là, je me suis lancé dans une autre aventure qui est un peu sur le fond, qui peut paraître similaire mais où la forme est complètement différente. C'est je me suis immergé dans un cabinet d'avocates à Strasbourg qui sont spécialisés dans le droit des étrangers, et puis je filme les consultations avec les clients et puis la vie du cabinet de cette équipe.
Alors, je voudrais revenir sur une question que tu as posée à la fin de ta présentation, question qui pour moi me paraît essentielle, hein, et j'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur de ce film. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Et posons-nous la question. Pourquoi tu poses cette question et qu'est-ce qui t'anime dans ce combat, dans cette histoire?
Ouais, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement, tous ensemble, de tous ces gens en fait qui arrivent et puis qui sur notre territoire et dont on voit des images, enfin, complètement affolantes. Moi, j'ai pas la solution, évidemment. Moi, c'est pas mon métier. Par contre, voilà, je suis un être sensible. Et du coup, en tant qu'artiste, j'essaie de réagir à ma manière et de montrer un petit peu, de comprendre, en fait. C'est une situation que, tu sais, je suis un citoyen lambda, donc moi, j'ai les médias, je regarde les infos,
Je vois des gars crever, je vois des mecs se noyer, je vois des bateaux pleins, je vois des gens qui essayent de les sauver et puis qu'on stoppe dans les ports. Enfin, je vois la merde, quoi. Et je sais pas, en fait, comment réagir. Je comprends pas cette situation. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Je comprends pas comment on peut... C'est pas une histoire de blacks, de blancs, de privilèges, de riches, de pauvres. C'est une histoire de solidarité, de fraternité, d'humanité, quoi. Mmh. Et donc, moi, c'est des histoires que je comprends pas. Et quand je comprends pas, bah, il faut que je bosse, en fait, sur la question pour essayer de au moins d'avoir une réponse à moi, quoi. J'entends souvent beaucoup de choses de gens qui disent, voilà, ils viennent profiter, ils volent le pain de la bouche de nos enfants, ils prennent le boulot, ils viennent profiter des privilèges, ils viennent, etc. Donc moi, j'avais envie de m'intéresser à la question et de voir si c'était vraiment la fête, en fait, quand t'arrives en France et puis quand t'es étranger, est-ce que c'est vraiment open bar et tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et donc j'avais décidé de travailler avec ces femmes-là pour finalement me rendre compte que c'est pas non plus aussi simple que ça, et que le fait d'être étranger aujourd'hui en France, notamment parce que c'est un film qui traite du droit des étrangers, c'est pas seulement des histoires de sortie et d'entrée sur le territoire, c'est est-ce que t'as le droit d'être là ou de pas être là, c'est qu'une fois que t'es là, tu construis ta vie, donc tu te maries ou tu fais venir ta famille, puis tu bosses ou tu montes une boîte, ta boîte elle coule, tu divorces, t'achètes une voiture, tu fais un accident, enfin t'as une vie classique, quoi. Et où en fait tu te rends compte que tout est un petit peu plus compliqué, en fait, quand t'es étranger, même dans une vie qui ressemblera à la nôtre.
Ce qui t'amène avec ta caméra, du coup, dans ce bureau, là, avec ses avocates. D'abord, un grand merci pour la qualité des témoignages que tu apportes. Cette manière dont tu as su te rendre invisible pour recueillir les témoignages des bénéficiaires, des personnes qui viennent dans ce bureau d'avocat.
C'est des clients.
C'est terrible. Ce mot, il est terrible.
Ouais, c'est horrible. Bah ouais, mais c'est j'avais du mal. J'ai eu du mal à quitter le mot patient. Donc parfois, je parle de patient. Je vais peut-être le dire là au micro. Donc faut m'excuser. Mais moi, je suis passé de patient à des clients. Le mot est clairement horrible. Mais on est dans une relation commerciale avec juste des professionnels de haute qualité, en fait, en face de toi. Et si tu veux, c'est un long travail d'approche où moi, j'ai fait énormément de repérages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant les personnages que je filme. Okay, moi, je ne suis pas là pour ça, on s'en fout, quoi. Et les avocates d'un côté du bureau, les clients de l'autre. Et donc, je fais un repérage très, très long. Je vais, je sais pas, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, repérer. Sur le divan du monde, je crois que j'étais resté peut-être 2 ans, voire 2 ans et demi sans caméra, en salle d'attente, à expliquer le projet à tout le monde. Et là, je suis resté, j'étais beaucoup avec les avocates, et justement pour préparer, en fait, ça, et pour devenir, si tu veux, un petit peu invisible, et puis trouver le bon dispositif. T'inquiète, on l'était invisible, beaucoup, hein. Mais pour prendre le moins de place possible. Je suis pas dans le truc... Si tu veux, faites comme si on n'était pas là. Je suis pas là-dedans, ne regardez pas la caméra, faites comme si on n'était pas là. Le truc, j'y crois pas, plus personne y croit. Enfin, c'est bon, on a compris, quoi. Je suis dans quelque chose qui est plutôt de... On est là, et faites-nous confiance. Tu vois, c'est tout. On est là, faites-nous confiance, on a le temps, on peut discuter. On n'est pas là pour vous truander, on n'est pas là pour vous voler votre image, on n'est pas là pour vous... Enfin, moi, j'ai autre chose à foutre de ma vie que de désinguer les gens ou me foutre de leur gueule, ou etc. Moi, si je filme des gens, c'est pour les rendre beaux, c'est pour leur rendre cette espèce d'humanité qu'on leur a enlevée, dans les médias, ou etc., etc. On a décidé d'en faire que des chiffres, que des statistiques. Moi, ce que j'ai envie, c'est de leur rendre leur dignité, leur humanité, leur histoire de vie, quoi. Et donc ça passe par les mettre en avant. Et comment tu mets ces gens-là en avant, c'est mon travail. Et c'est ce que je cherche à faire pendant mes repérages, pendant des années. Et où, justement... tu sais, parfois il y a des gens du milieu qui disent tel réalisateur, parfois en parlant de moi, en parlant de mon boulot, ils disaient il a posé sa caméra dans un cabinet de psy, il a posé sa caméra dans un cabinet d'avocat, et il suit par exemple des avocates. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. C'est-à-dire que ta caméra, tu la poses pas, quoi. Ta caméra, l'endroit où tu vas la fixer, c'est t'en discutes comme du pénalty, quoi. C'est sans fin, quoi. Tu as discussion avec le chef op, avec l'ingé son par rapport à son placement à lui, à quel cadre tu veux, à ce qui va apparaître dans le cadre, à la manière que tu auras de filmer tes personnages. Et puis c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en fait, tu ne suis pas les gens. En fait, tu ne fais que les précéder. Tu vois, c'est-à-dire que, effectivement, si tu sais rien, si tu n'as pas préparé ton film, si tu vas être en position de suivre. Parce que la femme, elle va aller à droite, elle va aller à gauche, le client, il va sortir par telle porte, etc. etc. Et en fait, ton boulot de repérage, c'est de tout voir, tout entendre, tout écouter, essayer de voir le plus de config possible, savoir comment la nana, quand ça sonne, qui va bouger comment, quand le téléphone il sonne, qui va répondre comment, savoir comment elle va positionner sa main, est-ce qu'elle va mettre des écouteurs ou pas, etc. etc. Et en fait, tout ça pour anticiper en permanence au moment du tournage, tout ça, pour... mon chef-op, il me regarde, je fais quoi là? Je fais, bah, tu filmes le cou de la femme. Mais pendant combien de temps? Je dis pendant 5 heures. Parce que je veux un geste que je veux qui apparaisse dans le film. Je veux ça ou ça, je veux cette manière de raccrocher, je veux voir telle image dans mon film, parce que je sais qu'elle va le faire, mais je peux pas te dire quand. Donc, ou alors, quand t'entends sonner, tu mets ta caméra à cet endroit-là. Et tout ça, pour arriver à justement cette invisibilité, mon invisibilité, l'invisibilité de mon équipe pendant le tournage, où en fait, nous, on est au taquet sur tout, on sait comment ça va se passer, on sait comment on veut filmer, et c'est ce qui fait qu'on disparaît, qu'il n'y a plus de gestes de mise en scène, il n'y a plus de ratés, il n'y a plus de choses comme ça, quoi. C'est travailler de manière acharnée pour arriver à une forme de... C'est compliqué, la simplicité, mais c'est ça, pour arriver à une forme de simplicité, quoi.
Là où l'invisibilité est vraiment palpable, c'est sur le témoignage du Tchadien, là où on la voit vraiment, dans cette manière un peu là, de sourire face à l'avocate pour se défendre. Ouais. Quand l'avocate sort pour aller, je crois, imprimer un papier ou quelque chose, le moment où les yeux tombent, les yeux se rebaissent, ce moment où il est comme s'il était seul dans ce bureau, là on le sent vraiment seul dans ce bureau, on n'a plus l'impression que t'es là, dans cette image presque, j'ai envie de dire.
Ouais, alors cette image est très très belle, ouais, et effectivement, mais tu sais, enfin, moi je suis persuadé... Je vais pas te refaire le coup de la... On est tous tout seuls, tu vois, on est tous dans une solitude de fou. Mais ces gens-là, ils ont une capacité à être entourés en permanence, mais d'une solitude folle, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver dans des centres, sur des bateaux, ils vont se retrouver face à l'administration, dans des files d'attente, dans des machins. Ils sont tout le temps entourés de gens qui leur disent quoi faire, ce qu'il faut faire, où faut aller, etc., etc. Mais c'est d'une solitude, c'est des gens qui sont extrêmement, extrêmement seuls. Et donc, nous, on peut être 45 en train de le filmer. Si le mec, il est seul dans sa tête, il fait abstraction, quoi. Tu vois ?
Et pareil, après, dans les chants que tu proposes aussi, on arrive à sentir les liens familiaux dans les clients qui viennent aussi dans une famille avec, il y a deux personnes qui parlent et on découvre le papa. Après, quand tu t'éloignes avec la caméra, c'est pareil, c'est beaucoup de repérage, ça aussi. T'as passé beaucoup de temps dans cette pièce à regarder les gens venir dans ces rendez-vous.
Ouais, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup préparé. Après, ça, c'est des choses que tu concrètement que tu bosses avec ton chef-op, tu vois, qui vraiment te dit voilà, ça va pas être possible. Là, il faut qu'on décale le bureau, etc., etc. Et après, en termes de montage, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qui tu vois, quand tu les vois, est-ce que tu fais apparaître une personne ou pas au milieu de la... Par exemple, il y en a un point de montage, il y a beaucoup de gens qui remarquent dans le film, qui est un peu compliqué, où d'un seul coup, il y a une personne qui apparaît, qu'on n'avait pas vue du tout avant. On m'a proposé de l'effacer numériquement, parce que c'est vrai que c'est un mec, il apporte rien, quoi. Il sert à rien, concrètement, en termes de personnage, hein, j'entends. Et on m'a dit, et en fait il perturbe la visibilité, le visionnage du film, et on m'a dit ouais, mais tu veux pas qu'on l'efface, même ce gars humain. Donc, ça m'a sidéré, la question. Mais et je dis ben non, en fait, parce que c'est la vie, quoi. Puis c'est pas grave, il y a juste un mec qui est rentré, d'un seul coup il y a un mec en plus dans le champ, c'est pas grave, ben, ça raconte une autre histoire. Ça veut dire que oui, le truc est pas en continu, moi j'ai pas envie de cacher non plus mes points de montage, j'ai pas envie de faire semblant que non, en fait à un moment il y a un mec qui est rentré. Limite, si j'avais pu avoir la continuité de l'action, je l'aurais laissé s'installer. On sait pas qui c'est. Ben, c'est pas grave, quoi. Moi aussi, là, je suis assis à côté de gens, je sais pas qui c'est, je les ai jamais vus. Je suis pas flic, je suis pas là pour leur demander ce qu'ils font. Un moment, il y a un mec qui apparaît, il s'assoit, ça choque personne. Tu vois, bah pourquoi pas, quoi. Tu vois, donc moi, je le filme, il est là, et puis du coup, c'est intéressant, moi, ces petits accidents comme ça, je trouve.
Alors, et maintenant, parlons un peu de l'aventure administrative. Que tu déploies un autre regard qui, elle, est effarante. Loïc, peut-être tu as quelque chose à dire sur cette aventure administrative qui s'est déployée comme ça sur l'écran.
Oui, un peu aussi par rapport à comment tu as présenté le film, en disant j'ai beaucoup travaillé, ça y est, j'ai fini, Et quand on voit ton film, on se rend compte qu'elles, de toute façon, elles n'auront jamais fini, puisque ça s'arrête jamais, leur administratif. Et quel a été ton choix, vraiment ? Ça a été vraiment important de le représenter, toute cette paperasse, toute cette aberration, quand on dit on voudrait changer les choses, mais peut-être qu'on aurait peut-être un petit peu envie de changer, au moins l'administratif, au-delà de changer les lois, au moins changer les procédures.
C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, j'ai... Alors, ouais, pourquoi tu montres le travail, l'administratif, le papier, etc., etc. Bon, la base, c'est que c'était... Tu peux pas l'occulter. Il s'agit pas d'être dans la réalité ou dans un truc comme ça. Il s'agit juste de représenter, d'essayer de représenter un petit peu. Moi, c'est simplement cinématographique. Moi, ça me crée des soupapes dans mon film. Ça me crée des motifs différents, des couleurs différentes, des actions différentes. Je les utilise et je les montre parce que j'ai shooté là-bas, que tu peux pas l'occulter, que c'est vraiment, vraiment trop important. Et du coup, comment moi je vais l'utiliser? Tu vois, ça, c'est la base du raisonnement, pourquoi ça apparaît. Après, moi, je suis quelqu'un qui est fasciné par le boulot. Je suis quelqu'un qui est fasciné par le travail, par la besogne. Tu vois, les gens besogneux qui bossent en silence et puis qui font un boulot très ingrat. Tous les boulots intellectuels, ils sont hyper ingrats, quoi. Les universitaires, enfin, tu vois, tous ces gens-là qui compulsent, qui lisent, qui intellectualisent, qui écrivent, qui essaient. Tous ces gens-là sont dans une forme d'ingratitude du boulot où tu t'es obligé de... En plus, c'est un truc, si tu veux réfléchir, si t'as besoin de... tu peux pas avoir un fond musical, tu peux pas il y en a qui peuvent pas travailler dans le bruit, etc. Donc c'est souvent des moments silencieux. S'il y avait une possibilité de voir comment une idée éclate dans la tête du cerveau, enfin dans le cerveau de la personne à ce moment-là, ou dans la tête de l'avocate à ce moment-là, juste au moment où elle est devant ses papiers en silence et qu'elle trouve l'axe, je me dis, c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à filmer un jour, quoi, l'éclair, tu vois, de trucs. J'ai beaucoup travaillé sur cette question du travail parce que ouais, les gens passionnés me fascinent, quoi. Mais passionné, ça veut dire, tu vois, ça peut être tes potes qui vont au foot et qui il fait froid, il pleut, il fait moche. Les mecs, ils se tapent encore 50 bornes pour aller jouer dans un club de merde, se faire engueuler par un entraîneur de merde, parce qu'en fait, ils sont passionnés, quoi. Tu vois. Et donc, les travailleurs passionnés, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Parce qu'il y a quelque chose d'irrationnel. Et vu qu'on est dans un monde de rationalité, tu vois, on a besoin de tout comprendre. Moi, voilà, tu finis ce truc, tu comprends pas comment elles font. C'est nana, tu sais, pour tenir. Et tu sais que, justement, c'est un truc sans fin, que ça s'arrêtera jamais et que ça va être de pire en pire. Peut-être que vous avez déjà pensé ça à la radio. Mais s'engager dans une voie où tu te dis, mais c'est de pire en pire, mais il n'y a rien pour éclaircir le tableau, il n'y a rien que pour éclaircir la situation. On y va tous droit dans le mur. Il faut avoir la niaque, tu vois, quand même, pour rester dans ce boulot. Et combien de gens tu connais qui ont tout laissé foirer pour aller s'installer à la campagne, tu vois, être peinard et dire, vas-y, on arrête un petit peu ces conneries, cette course en avant, parce que ça n'a pas de sens, parce que ça n'a pas de truc. Ils ont raison. Parce que vaut mieux être bien dans ses pompes, tu vois, et faire son truc. Mais si ces avocates, elles font ça, c'est la merde, quoi.
Tu vois. Tu veux dire, elles s'oublient complètement, de toute façon.
Ouais, alors c'est compliqué, parce que moi, je les connais que à titre professionnel. Donc moi, ce qui se passe quand elles sortent du cabinet, moi, je peux pas te dire, hein, je les connais pas dans leur vie privée. Par contre, je sais que j'ai déjà reçu des mails, j'ai déjà reçu des trucs à des horaires de boulot de ouf. Je sais que Christine, une des protagonistes, c'est une nana qui arrive à 5h du mat au boulot, qui traite, c'est parce qu'elle a besoin de travailler de manière calme avant que les autres arrivent à 9h. Donc t'imagines le truc, après elle va partir plus tôt, hein, l'après-midi, alors que les autres arrivent à 9h. Par contre, ils sont là jusqu'à 20h, 21h, 22h, tu vois. Donc je la connais pas, la vie privée. Mais je sais l'investissement qu'elles mettent, en tout cas dans le professionnalisme. Et oui, j'ai l'impression. Je sais pas si elles s'oublient. Je sais pas si elles s'oublient. Parce que tu vois, elles font quand même attention. Tu vois, moi, je sens dans ce film-là qu'il y a quand même des extérieurs et qu'elles ont une vie sociale, tu vois, à l'extérieur. Moi, je le sens quand je vois ces personnes-là. Mais ouais, elles ont un investissement très, très fort.
Après, je parlais de ça parce que quand tu parles de boulot d'intellectualité, souvent ça reste tout le temps, tu y penses tout le temps. Et je me dis qu'un boulot comme le leur, avec le nombre de dossiers qu'elles ont, je sais pas comment elles arrivent à un moment donné à oublier leur boulot, quoi, à oublier leur travail. Je pense qu'elles y sont tout le temps.
Mais t'as raison, comme bah, peut-être un cinéaste peut l'être aussi, tu vois. Et elles y sont en comment tu dis ? Ouais, tu en perds. C'est une manière d'être, en fait, tu vois, c'est un sacerdoce, tu vis avec, ça peut être une espèce de religion, tu vois, de te dire, bah, en fait, moi, ce que je veux dans la vie, c'est sauver des gens ou aider les gens, etc. C'est des convictions qui sont très fortes. Je sais que j'avais discuté avec des avocates, une à une, qui m'expliquait qu'elle, simplement, ce qui l'animait, c'était... elle comprenait pas qu'on puisse empêcher des gens de circuler librement aujourd'hui, tu vois, sur Terre. Et de dire, bah, toi, tu n'as pas le droit d'être là, toi, tu n'as pas le droit d'être là, et donc, on t'in... Elle dit, pour eux, c'est une aberration. Tu vois. Et son truc, c'est de dire, moi, si les gens ils veulent bouger, je les aide à bouger. S'ils veulent s'installer, je les aide à s'installer, etc. Et je ne me pose pas de questions sur qui, quoi, comment, etc. C'est la base, tu vois. C'est l'humanité, comment on traite les êtres, tu vois, comment on traite les humains et tout. Et effectivement, dans leur investissement, comme tu dis, cette espèce de truc qui les quitte jamais... il y a une espèce de, il y a quelque chose qui pour moi est très ancré, quoi, tu vois, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont tu les sens très ancrés dans la société, très au courant de tout, qui sont vraiment à l'affût, tu vois, de la situation sociale. C'est des gens qui sentent comment ça se passe, on vient leur raconter des histoires, même elles pourraient ne jamais sortir de son bureau, il y a tout, de leur bureau il y a tous les jours quelqu'un qui vient leur dire, bah, en fait dehors c'est pire, et c'est encore pire qu'hier, et c'est encore pire qu'hier, et c'est encore pire qu'hier. Et elles ont une mise à distance, elles mettent les gens à distance. C'est par exemple ce qui permet la place de l'humour, tu vois, un petit peu dans le film, où les gens rigolent de leur situation, où elles, parfois, elles sont un peu légères quand les trucs, c'est, les situations sont dramatiques. Elles mettent les gens à distance. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la formation d'avocat, où on t'apprend aussi à, pour bien travailler, à pas t'investir émotionnellement. Il y a quelque chose de la posture... du puissant avec du dominant avec le dominé, qui fait aussi que, bah, quand t'es d'un côté du bureau t'as pas la même posture que quand t'es de l'autre côté, quoi. Quand t'es l'accueillant, c'est pas la même chose que l'accueilli. Et t'as une espèce de distance, je pense, qu'elles mettent elles-mêmes personnellement, parce que sinon je pense que tu pleures tout le temps, en fait, frérot.
Ah, c'est vital.
Tu pleures tout le temps, en fait. Tu peux pas, quoi. C'est-à-dire qu'un mec qui vient et te dit il y a un obus qui est tombé sur ma maison, ma femme elle est morte, regarde mes mains, le mec il a 45 opérations, il a ses bras, ils ont une gueule de Picasso, tu vois. Et je veux dire, comment tu veux manger après? Comment tu veux aller boire un verre d'eau? Comment tu veux, tu peux pas, en fait, t'as envie de te jeter par la fenêtre, quoi. Tu te dis, putain, mais on est là encore à casser les couilles à ce mec, tu vois, alors qui se retrouve dans des embrouilles pas possibles, tu sens bien, tu vois le gars, tu le sens, le mec. À un moment on est là, on les sent, les gens, tu vois, c'est ce qui fait de nous des humains, quoi. Tu vois, le mec, tu vois bien que c'est pas lui, tu vois bien. Arrête, me fais pas croire que c'est ce gars. Si tu crois que ce gars il va tout casser, il va te faire la misère et qu'il va tout truc, mais c'est toi qu'il faut qu'il change, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi j'essaye d'amener un petit peu de qu'on puisse rencontrer un moment ces gens, même de manière courte. Mais un moment, que ce, tu vois, que ce Black, que ce Renoir, qui se balade dans la rue et que tu regardes d'un œil, en fait, suspicieux et tout, je lui dis, vas-y, demande-lui juste de soulever ses manches.
Donc comment il a fait pour arriver jusque de là, devant nous?
Ouais, voilà.
De s'imaginer juste cette condition de voyage, il faut accrocher aux essieux d'un camion.
Non, mais voilà, puis je te parle pas des... Tu sais, moi, je suis un mec d'image, je suis pas du tout un spécialiste des migrants, de la question migrante, des migrations, etc. Moi, je suis un mec d'image, quoi. Donc moi, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois des bateaux, des images, hein, je vois. Je vois des images de bateaux remplis de gens qui débordent. Mais tu sais, en mode, les rats. Tu sais, les rats qui s'entassent sur les bateaux et qui arrivent. Je suis désolé, moi, cette iconographie, pour moi, elle est néfaste, elle est nauséabonde, elle est... Putain, tu peux prendre toutes les photos ou toutes les vidéos qui ont été faites dans la presse ces dernières années sur la question des migrants ou des migrations et tout, il y a vraiment des photos, c'est un scandale, quoi. Tu vois, moi, quand tu m'étonnes que les gens ils ont peur. Oui. Mais les mecs ils ont peur de ouf, parce qu'ils voient des bateaux avec des gens qui ont l'air morts de faim, qui ont l'air d'avoir toute la misère du monde sur leur truc et sur leurs épaules, et qui viennent parce qu'ils ont envie de survivre, quoi, tu vois. Donc tu te dis, putain, mais ces gens-là, en fait, ils sont dans une situation irrationnelle, quelque chose que je connais pas, donc ça me fait flipper, quoi. Et il y a des images que moi je trouve vraiment dégueulasses, quoi. Et à un moment, cette espèce d'anonymisation des gars en disant, bah, en fait, c'est une masse de gens, c'est pas une personne. C'est pas une masse de personnes, c'est une masse informe de gens qui arrivent avec que des statistiques. X% de mecs, Y% d'Afghans, Z% de Tchadiens, enfin tu vois, etc., etc. Avec juste des stats. Et en fait, tu enlèves toute l'humanité en mettant juste des chiffres et en disant, voilà, il y a X personnes qui arrivent. Voyez, on n'est vraiment pas un pays, on est quand même un pays cool parce qu'on en a régularisé tant. Et oui, les autres, on va les renvoyer chez eux. On peut pas accueillir toute la misère du monde. On va te faire enculer, quoi. Puis, je veux dire, accueille déjà la richesse, quoi.
Alors, tu parles de médias, tu parles de statistiques. Alors, justement, parlons de la vision des médias que tu donnes aussi dans ton film. Le rôle, le fait de médiatiser la défense d'une personne sans papier, nous, on a déjà été confrontés dans cette question de se dire, est-ce que oui ou non on médiatise la question, est-ce que ça peut lui nuire ou pas de rallier l'opinion publique à cette personne pour pas que le préfet ne se vexe et du coup mette une OQTF, une obligation de quitter le territoire français sur le dos d'un migrant. Ce levier-là qui est important, en fait.
Ouais, alors j'aimerais bien avoir ce poids-là pour énerver des préfets. Ou pas, hein, ou en faire mes potes, hein, je peux pas énerver les préfets, moi j'ai rien contre eux, mais je sais que dans ce film-là, je sais que les avocates, elles font tout pour leurs clients, quoi. Tu vois, elles ont vu le film, elles ont, non mais tu vois, donc du coup elles vont tout faire pour les protéger. Donc si à un moment il y a le moindre risque que cette médiatisation, comme on dit, puisse leur nuire, elles auraient dit non. Après, moi, mon but, moi, je suis pas journaliste, tu vois, comme vous, je sais pas si vous considérez comme journaliste. Vous avez une carte de presse ?
Non.
Ok. Moi, mon but, c'est pas de médiatiser ou c'est de mettre. Mon but, c'est de faire un film. Et donc, si tu veux, quand je sens que moi, il y a un gars qui veut utiliser ma caméra pour médiatiser, je prends, parce que je prends tout. Mais je le gicle tout de suite au montage, même pas au montage. Au tournage, je sais déjà que je vais pas l'utiliser. Mais je tente parce que ça peut durer 2 minutes et après le mec il rentre dans une autre énergie, dans une autre dynamique. Ça peut le faire parce que son histoire elle peut être hyper intéressante et tout. Mais quand on essaye de m'utiliser ou d'utiliser mon équipe pour que j'ai quelque chose que j'estime qui n'est pas ce que je veux faire, parce que moi je suis pas là pour médiatiser un cas, je suis pas là pour attirer l'attention sur un cas plus que sur un autre, je suis pas là pour favoriser quelqu'un, je suis là pour donner ma vision d'une situation qui me touche, donc j'y vais pas, parce qu'en plus quand t'es déjà dans un truc un peu retors quand t'essaies de manipuler quelqu'un, et moi, un mec retors qui sait déjà utiliser les médias, par exemple, il m'intéresse pas, c'est pas lui que j'ai envie de mettre en avant, et je me dis, il est retors à d'autres endroits. Tu vois, moi, je te dis, je filme les gens dans une espèce de situation de simplicité, de confiance, de prise de parole. Moi, j'ai envie de... Je te dis, je filme pas les gens pour les couler ou pour que ce soit, j'essaie de vraiment les mettre en avant, de les rendre beaux, tu vois, de rendre leur discours audible, de rendre leur discours intelligible, parce que là, tu vois, les consultes que tu vois, elles font 5 minutes, mais en fait, elles durent 1h30, tu vois, ce que et du coup, c'est comment... Oui, en plus, c'est ton boulot, quoi, mais quelle est l'essence de ces discussions, quel est le fil conducteur, et comment, avec tout ce que le mec va raconter de son histoire, on arrive à trouver le fil ténu de son histoire qui est la base, en fait, parce qu'il y a vraiment son, et qui en même temps fait qu'on va pouvoir s'identifier et s'accrocher. Parce que le mec, il peut parler de papier pendant une heure, mais t'as pas assez de problèmes, tu peux pas comprendre.
Par contre, on peut avoir des enfants, quoi, un mauvais bulletin scolaire, et se rendre compte que ça fout la pression sur une famille qui peut se faire virer juste pour un bulletin scolaire.
Exactement, exactement. C'est ces situations-là, quoi. C'est le soir, j'arrive pas à bouffer, le soir, j'arrive pas à dormir, je prends des médocs, j'arrive pas à dormir. C'est, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai divorcé. C'est des situations basiques qu'il y avait déjà dans Le Divan du Monde, mon premier film, où c'est. Parce qu'on est plein à avoir une vie de merde, quoi. Tu vois, on est plein à se prendre la tête avec l'administration. On est, enfin, là, je viens de passer 4 jours à essayer de faire une démarche administrative. Mais c'était juste la croix et la bannière. Heureusement que je suis tombé sur des fonctionnaires extrêmement bienveillants, etc., etc., qui m'ont aidé, qui m'ont guidé, et qui eux-mêmes me disaient ouais, c'est compliqué, mais t'inquiète, ça va passer. Mais parce que ça crée des situations ubuesques, tu vois. Et donc, quand toi, t'es là, et que le seul truc que tu veux, c'est avoir un toit au-dessus de ta tête, bouffer. Mais une bouffée de la merde, hein, bouffée du riz, sous une tente, mais juste à un moment, arrêter de craindre pour ta vie, te faire soigner, etc. Et qu'on dit, pas de stress, il y a juste 48 000 papiers à remplir d'abord, aller voir des. Sans papier, c'est le plus mauvais terme qu'on ait jamais trouvé. Il n'y a pas de mec.
Beaucoup de papiers pour des papiers. Hein.
On devrait les appeler les trop de papiers.
Ah, mais oui.
On ne devrait pas les appeler les sans papiers. On devrait les appeler les trop de papiers.
Les sans papiers, mais on le change autrement, l'écriture du sang.
Ouais, voilà, c'est sans papiers, mais c'est incroyable. Les mecs, ils se. Pour tout. Parce qu'ils doivent justifier de leur présence dans la rue. Tu vois déjà les mecs, comment nous, ils s'excitent pour le Covid. Genre, ils devaient signer un papier de. Tu sais, on devait signer des auto-autorisations, on devait s'autoriser nous-mêmes à sortir. Tu te souviens de ce. Il y a un an. Ouais, je vais faire des courses. Au cas où tu te fais contrôler dans la rue, ton papier dit je vais faire des courses, je suis sorti de chez moi. Mais t'as vu déjà nous comment ça nous rendait fous. Alors qu'on sortait de chez nous, je dis pas que c'était cool, hein, mais on sortait de chez nous, on allait faire des courses. Tu peux tout acheter, tu peux te rincer, tu peux acheter à picoler, tu peux acheter à bouffer, des produits de luxe, des trucs machin. Tu rentres chez toi, t'es dans ton confort. On te demande un papier, t'es là, yeah, putain, fais chier ce papier de merde et tout, tu vois. À la fin, tu le faisais même plus. Tu vois, tu disais, bah, si le mec il m'arrête, je dis, ah, bah, je l'ai oublié chez moi, je rentre vite chez moi, je le re-signe, et puis tu vois. Mais à la fin, tu le fais même plus, le truc. Déjà, nous, ça nous rendait fous, ça. Imagine ces gars-là. Ils doivent justifier de tout. Oui. De tout.
Justifier de tout, sans accès aux internets, aux imprimantes, qui permettent aussi de pouvoir sortir ce papier par la suite. Tout un tas de complexités qui viennent rendre ces dossiers, des fois, mais complètement UBS. Enfin,
bah c'est le grand problème, parce que oui, il y avait des longues files d'attente, tu vois, devant les préfectures. Puis c'était pas bon, quoi, tu vois, pour les préfectures, pour l'État, de voir des dizaines, des centaines de blacks, d'arabes, d'asiates, des mecs du Caucase, tu vois. Venir et attendre, tu vois. Donc, pour le bien de l'humanité, on a mis des ordinateurs et puis on a dit maintenant il y a des rendez-vous. Résultat, t'as des mecs qui prennent 10 rendez-vous puis après les revendent. Super, donc on a créé une espèce de mafia du rendez-vous en préfecture. Qui prennent les créneaux parce qu'ils ont l'ordinateur, parce qu'ils sont là à minuit, parce qu'il faut se connecter à minuit, parce qu'à minuit une c'est mort, parce que si je sais pas, si vous êtes plusieurs sur une connexion et qu'il y en a un qui est en train de mater un film, toi tu peux pas te connecter à ton site de la préfecture, parce que si tu réagis, si on te pose une question pendant que t'es devant internet, bah il y a quelqu'un qui a pris ton créneau, un autre gars qui est connecté au même moment, parce que c'est la bataille. Donc en fait, au lieu de créer une file de gens qui attend, bah t'as créé une guerre du créneau en préfecture. Et encore une fois que t'as le créneau en préfecture, c'est pas la fête. C'est une fois que t'as le créneau en préfecture, c'est le début des galères. Mais déjà, on t'a expliqué qu'en fait, on te met dans le bain. T'as vu comment c'était galère pour avoir le rendez-vous? Bah imagine, c'était que le premier rendez-vous. Imagine tout ce qui va venir là, tu vois. Et c'est un peu ça. Et donc, maintenant, on a créé ce système de prise de rendez-vous en préfecture pour faire le truc. Bah voilà, c'est comme tu sais, maintenant les vieux, c'est con à dire, hein, mais maintenant les vieux, tu sais, comment on appelle ça, la fracture technologique ou je sais plus quoi, tu vois, c'est y a des associations qui sont là pour aider les vieux à faire les démarches en ligne, la CAF, le machin et tout. Parce qu'on a dit, en fait, non, il n'y a plus de possibilités. Maintenant, c'est tout en numérique. Il n'y a plus de possibilité de prendre ta caisse, même horrible, hein. Il n'y a même plus ta possibilité de prendre la caisse, de faire 80 bornes pour te faire envoyer chier à un guichet ou pour arriver une minute trop tard parce que tu étais dans les bouchons. Tu n'as même plus cette possibilité-là. Maintenant, c'est on veut même plus te voir. Tout est fait pour que t'invisibiliser, tout est fait pour qu'on te voit plus. Et alors de la 4G, des téléphones à 400 balles et où tout le monde se mate du porn, tu vois, sur son téléphone, bah putain, si t'arrives pas à payer ta facture, c'est que tu le fais exprès, quoi. Tu vois. Et donc t'as des assos qui sont créés, des assos super, hein, des mecs super, des mecs en or, qui ont décidé de travailler contre la fracture tu vois, technologique, ou informatique, ou je sais pas comment on peut appeler ça, fracture numérique. Et de l'autre côté, t'en as plein qui n'ont pas de réseau, qui ne connaissent pas les gens, qui ne peuvent pas se planter dans ces assos, qui ne sont pas subventionnés. Qui sont... Ça ne veut pas dire que les mecs ne les aideraient pas. Ça veut dire qu'eux, ils ne savent même pas que ces assos, elles existent. Quoi. Et donc, ils sont là, essayer de prendre un rendez-vous sur leur téléphone, qu'ils ont dû taxer, ils ont acheté une carte, un machin et tout. Ils sont là en train d'essayer de prendre des créneaux.
On est loin pour ça. Ici, à Gendou, je pense, ça doit déjà se passer, l'exemple dont tu dis.
Ah ouais, non, mais c'est ça. Imagine, non, mais imagine. En plus, si tu es dans un truc où tu es dans une espèce de zone blanche, ouais. Zone blanche, tout est dans le nom, quoi. Il y a les zones blanches, c'est pas bon pour les étrangers. Au propre comme au figuré. Ouais.
Ah, j'ai remarqué aussi dans le film Les Avocates, ce qui est assez incroyable, c'est qu'elles s'habituent jamais et qu'elles sont toujours scandalisées par ce qu'elles voient. Et pourtant, elles doivent en voir quand même.
Elle est très. C'est ce qui fait, à mon avis, qu'elles tiennent, quoi. C'est ce qui fait que. C'est ce que je te dis, c'est compliqué de parler de passion. Je préfère parler de conditions de vie, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, t'as fait un choix. Tu sais, c'est l'horreur quand tout le monde compte sur toi. C'est quand tout le monde a besoin de toi. Quand t'es vraiment au centre du game et que tu te dis, tiens, si lui, je le laisse tomber, c'est la mort. Si je lui le laisse, et c'était la problématique qu'avait par exemple ce psychiatre quand il est parti à la retraite. C'était d'arrêter d'accepter des gens. Et en fait, je peux plus prendre de nouveaux, mais il lâche pas les anciens. Parce que c'est des mecs qui bossent depuis 30 ans, tu vois. Donc s'il lâche ses gars, il sait qu'il a un rôle vital à jouer. Mais il est dans un entre-deux, hein. Je pense qu'il repère les gens qui doivent vraiment pas lâcher. Et les avocates, c'est un peu ça, quoi. Je pense que si t'es dans la merde et que ton avocate, elle te lâche, c'est vraiment, vraiment, vraiment dur, quoi. Et donc elle vit avec le poids de la responsabilité de dire, si j'arrive pas à convaincre ce gars... Cette famille, elle se fait expulser. Si j'arrive pas à convaincre tel tribunal, ce gars-là, il va perdre ses papiers. Si j'arrive pas. Et donc, il y a une espèce d'automotivation en général où tu peux pas te permettre d'être blasé. Parce que si t'es blasé, tu vas prendre le truc par-dessus la jambe. Tu vas moins bien travailler. Tu vas dire, c'est bon, ça, je l'ai déjà fait. Je connais le truc. Et t'as un truc où. Il y a une scène centrale dans le film où la nana, elle explique ce qui la scandalise. Et c'est là qu'on comprend qu'en fait, elle a ses tripes et qu'en fait, elle décide de ne se satisfaire d'aucune situation. Et de dire qu'il y a toujours un truc à faire. Et à un moment, l'administration, on est dans un pays de droit. Et cette administration, ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Je fais une parenthèse, deux secondes. Parce qu'après, ça, je voulais le dire. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux pas être content. Tu peux râler, tu peux être un putain de facho, tu peux dire, il y en a marre, contester, t'énerver, faire des coups de pute, taguer, détruire des stèles, détruire des camps de migrants, tu peux casser les couilles à tout le monde, t'es dans un pays de droit, frérot. Tu vois ? T'es pas, tu peux dire, ouais, on est dans un pays capitaliste, machin. Non, ce que tu veux, t'es dans un pays de droit. Et le droit, c'est ce qui nous protège tous, c'est ce qu'il y en a qui perdent. Il y en a qui se font avoir, tu vois. Mais ces avocates, elles vivent dans ce monde-là et elles savent que c'est elles encore qui ont les cartes en main et que si tu gères... C'est beaucoup, beaucoup plus puissant qu'un médecin. Beaucoup, beaucoup plus puissant qu'un médecin, un avocat. Le médecin, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut te réparer, il peut éventuellement te tuer, tu vois, t'empoisonner, si t'as vraiment dans le pif. Mais en tant qu'avocate, ces avocates-là, elles usent juste... de ce monde qu'on a construit et où le droit dirige tout. Et si aujourd'hui on est dans un pays capitaliste, etc., où les mecs peuvent tout se permettre, peuvent tout faire, c'est parce qu'ils ont le droit. C'est juste parce qu'ils ont le droit. Si c'est pas inscrit dans le droit, va te faire foutre que tu vas y aller dans l'espace, que tu vas y raser une forêt, que tu vas... Tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils ont le droit. C'est tout. Tu vois, y a pas... Donc c'était ça la parenthèse que je voulais dire. Et du coup, ces nanas, elles sont scandalisées en permanence parce que elles savent qu'on est dans un pays de droit et elles savent qu'il y a quelqu'un qui est en train de bafouer les droits des autres. Tu sais, il y a une phrase qu'une secrétaire, elle m'a dit un jour, qui était la phrase en fait qui a tout lancé dans le dossier qu'on a écrit pour le film. Elle dit « La justice, c'est une machine à balayer les petits. » Et on dit à tout le monde que nul n'est censé ignorer la loi. Elle fait « Mais la réalité, c'est que les gens, ils connaissent pas leurs droits. » Et elle est là, la réalité, tu vois. C'est que t'es pas censé ignorer la loi, mais qu'en fait, tes droits, tu les connais pas. Et il y a des gens, ils usent et ils abusent de ces situations. Et ils te traitent, mais comme de la merde. Alors simplement parce que t'as une méconnaissance du droit, tu vois. Et alors imagine quand t'es en plus étranger, que c'est pas ton pays, que c'est pas ton truc. Les seuls trucs que tu connais, c'est les lumières, ce qu'on t'a dit de la France, ce que t'as vu à la télé, machin. Et t'arrives et tu te pointes dans ce pays et tu te dis, bon bah c'est un pays de droit, on va me protéger, on va y aller. On te dit, ouais, tu peux venir, tu peux demander l'asile. Tu peux demander toutes sortes de protections. Mais c'est pas la fête. Mec, c'est pas la fête du tout. Et donc, elles, je pense qu'elles ont une espèce de moteur qui les anime. Parce que si elles perdent ce moteur-là, ben pour le coup, en fait, elles deviennent rien, quoi. Tu vois, elles deviennent des passeuses, elles deviennent des trucs. Je pense qu'elles ont envie de... C'est des caractères, quoi. Tu vois, c'est des meufs qu'elles ont envie, elles ont envie de gagner. Il y a des situations qui les révulsent. Et qu'elle se scandalise. Comme avant, elle se protégeait. Tu sais, on parlait de la protection, de la distance. Bah là, elle s'auto-scandalise en permanence de tout. Parce que c'est une espèce de niaque et d'énergie à un moment qu'il faut avoir, quoi.
Je vois l'exemple avec la CAF. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Quand elle dit, de toute façon, quand bien même vous êtes relaxé, de toute façon, la CAF ne respectera pas la décision de justice et vous réclamera quand même l'argent. Mmh. Ça résume tout, quoi.
Mais... La CAF, c'est notre ami à tous, quoi. Tu vois, je veux dire, la CAF, c'est notre meilleur ennemi, quoi. C'est-à-dire que c'est... tu te souviens, je sais pas, Macron, quand il est arrivé, il a dit, j'enlève 5 euros à tous les étudiants et tout, par la CAF et tout. Putain, mais tu te souviens le scandale. C'était les avaient l'impression de mettre le pays à feu et à sang et tout. À raison, hein, c'est pas la question, je dis pas qu'il fallait laisser passer. Mais tu vois bien l'impact de cette putain de structure sur nos vies à tous, quoi. Le jour où t'as oublié de timbrer ta lettre, le jour où t'as oublié de mettre le doc, le jour où une autre administration, elle est censée te donner le document, mais elle te le donne pas parce que le mec est en vacances, parce que la machine elle marche pas, parce que une autre administration lui a pas donné le chiffre, parce que toi, il y a 4 ans, t'as oublié de déclarer 2000 balles que t'as touché de je sais pas quoi, d'une vente d'une vieille bagnole, de je sais pas quoi, t'as... Et 4 ans après, on te dit, bah ouais, mais là, il y a un problème de déclaration dans ton truc, dans ta déclaration d'il y a 3 ou 4 ans et tout. Donc du coup, t'es... mec, mais c'est la croix et la bannière, quoi. Tu vois. Et donc, moi, je trouve ça hyper fort d'un moment d'entendre, parce que c'est un peu le sentiment que j'ai, qu'il y a des administrations qui se font justice elles-mêmes. Tu vois. Et la Sécu fait ça, la CAF fait ça, et dans ce cas de figure... Les avocates, elles estiment que c'est... Elles l'entendent, mais elles trouvent ça illégitime dans le sens où, effectivement, le mec a bossé, le mec a cotisé, le mec a jamais bénéficié d'allocations ou d'aide ou de soutien ou de quoi que ce soit. Il a payé ses impôts, il a payé ses taxes, etc. Et en fait, c'était juste pas son vrai nom, quoi.
Donc il cotisera deux fois.
Donc maintenant il va repartir de zéro, il va recotiser. Mais en fait tout ce qui s'est passé on va lui enlever. Et tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il a déjà cotisé on va lui enlever. Le mec il est réglo de chez réglo, hein. Il s'est fondu, tu sais les mecs qui se fondent dans le système c'est les meilleurs soldats en fait. Ils ont tellement fait pour en arriver là qu'une fois qu'ils sont intégrés dans le système c'est les mecs qui pissent droit de... Et du coup, ce gars-là, bah, en fait, tu repars de zéro. Donc voilà, t'as bossé 10 ans, t'as cotisé 10 ans, ton patron, il a payé les impôts pendant 10 ans parce qu'il t'a salarié, etc., etc. Et là, t'as plus droit à la protection sociale, t'as plus droit à rien. Moi, je sais pas. Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse. Tu vois, je me doute bien que si tu discutes avec lui, il est pas du même avis qu'avec l'autre, et que si tu discutes avec la Sécu, ils vont dire bah oui, mais machin. Si tu discutes avec la CAF, ils vont dire bah oui, machin. Et les gars, dans leur vie au quotidien, ça a pas le même impact. J'ai pas la solution, je dis pas qu'il faut ou qu'il faut pas, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'impact que ça a, cette décision, sur la vie d'un mec. Et donc il y a un deuxième perso dans le film qui a un problème de CAF, qui doit énormément d'argent à la CAF, et c'est pour la même raison. C'est qu'en fait lui il doit 32 000 euros à la CAF parce qu'en fait il a récupéré sa véritable identité. Et la CAF a dit mais nous dans ta vie on t'a déjà donné 32 000 balles d'alloc, de soutien, de loyer, d'allocation adulte handicapé, de je sais pas quel truc, tu nous les rembourses. Mais il a truandé en fait personne, il avait juste changé de nom quand il est arrivé en France, parce qu'il s'est fait passer pour une autre personne, parce que s'il avait dit qu'il était vraiment, il n'aurait pas pu. Donc c'était un mec qui était dans un processus de survie. Les deux persos, ils sont dans la même situation. Ils étaient tous les deux dans un processus de survie. On leur a dit... Quelqu'un leur a dit, essaye plutôt de faire de changer de nom et de dire que tu vois, tu viens de là plutôt que tu viens de là. Donc il y avait un personnage, c'est un Algérien qui s'était fait passer pour un Irakien à l'époque. Et le second, c'est un mec qui disait qu'il venait du Kosovo. Parce qu'on lui avait dit que c'était plus simple pour avoir. Et c'est des mecs qui sont rentrés dans le système et qui ont joué le jeu du système et qui se retrouvent à un moment dans leur vie à dire. Bah en fait, je suis pas bien dans mes pompes, je veux récupérer ma véritable identité. Et ça, c'est une démarche d'honnêteté, tu vois, de revenir un peu en arrière. Et puis t'imagines, enfin, au niveau psy, au niveau. Enfin, comme c'est dur à porter, tout ça, quoi. Et en fait, d'un seul coup, ces mecs-là, la justice dit, franchement, c'est pas bien, mais vu ta situation, ça va. Et la CAF dit, bah, ça va pas du tout, en fait. Nous, on n'est pas d'accord du tout, quoi. Et un espèce de. Tribunal supra supérieur encore au tribunal de l'extérieur, quoi, tu vois, des tribunaux de justice, quoi.
C'est une illustration de la justice du privé sur la justice, la politique normale, quoi.
Bah, c'est si tu veux, enfin, moi, c'est un truc que je trouve juste ubuesque et qu'à un moment, la justice, même aujourd'hui, elle n'ait pas le pouvoir de dire ah ben si, en fait, vous allez suivre nos indications parce que. Bah, toi, t'as prêté 100 balles à un gars. Tu prêtes 100 balles à un gars, puis c'est ton pote, il est hyper sympa, il est hyper cool, puis au bout d'un an, il dit bon, écoute, faut que je te parle d'un truc et tout. En fait, je m'appelle pas Richard, je m'appelle Fred. Et là, tu vas dire ah ouais, t'appelles Fred ? Eh ben, tes 100 balles, tu vas me les rendre en fait. Alors que t'avais laissé pisser le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est de la connerie en fait, c'est un raisonnement complètement con. Juste parce que le mec, mais tu crois qu'il était bien dans ses pompes le gars à te mentir pendant tout ce temps ? Tu crois qu'il a fait le malin ? Tu crois qu'avec tes 100 balles il s'est payé des putes ? Tu crois qu'il a fait quoi ? Tu vois ? Et d'un seul coup t'as un espèce de truc genre de trahison, de machin. Et on parle de l'administration, on parle même pas d'un pote. Genre le mec il a trahi qui ? Tu vois, le fonctionnaire qui était en face de lui du bureau, il a fait quoi ? Il a menti à l'État français, mais l'État français c'est qui ? On l'a pas trahi. C'est le mec, il était en mode survie. Moi si demain. Je dois aller dans un autre pays, parce que ça va arriver un jour, parce qu'il y aura forcément des situations où nous, à un moment, on sera les migrants. Si moi, à un moment, je dois aller dans un autre pays et qu'on doit me dire, et qu'on me dit, Sven, en fait, fais-toi passer pour un Allemand, un Belge, enfin bon, on va dire un pays francophone, quoi, un Québécois, un Canadien et tout, mais je le fais direct. Et si on me dit, tu t'appelles plus Sven, tu t'appelles Jérôme, je me mets direct. Il n'y a pas photo, quoi. J'ai une femme, j'ai une gosse, j'ai un machin, moi je veux y aller, je veux survivre, je veux que c'est des gens qui ont une belle vie. Nous on l'a tous fait, on a tous menti, je sais pas, demande à tes grands-parents combien de fois ils ont menti pendant la guerre. Tu vois ? Tous nos grands-parents, ils ont menti, rementi, rementi, ils ont fait croire ci, ils ont fait croire ça et tout. Il y en a qui ont changé de nom et tout. Putain, c'est des histoires de survie. Donc après, quand tu essaies de récupérer ta véritable identité, on te dit ah ouais, bah tu vas me rendre les 32 000 balles. C'est-à-dire que non mais on a retourné le vice. C'est-à-dire que le mec rentre dans une démarche d'honnêteté, on lui dit bah en fait il faudrait que tu continues à mentir quoi. C'est pas ça la justice.
Non, c'est pas ça. Alors là,
dis ça rejoint que l'exemple que tu avais pris avec l'école de la préfecture qui va utiliser un bulletin scolaire pour du coup punir des parents quoi.
Oui.
C'est comme s'ils appelaient EDF. Et qui disait, c'est quand la dernière fois qu'ils ont payé ? Bah, c'est chaud, hein, la dernière fois qu'ils ont payé. On est en 2021, la dernière fois qu'ils ont payé, c'était il y a plus d'un an, en 2020. Ah ouais ? Expulsion. Tu vois, c'est le même raisonnement, en fait. D'aller fliquer les... Attends, mais... Alors, on se met d'accord. Soit on utilise les bulletins scolaires, soit on n'utilise pas les bulletins scolaires. Donc, tu vois, c'est ce qu'on fait déjà avec... tu sais, quand on dit, on va priver d'allocation CAF les parents dont les enfants ont fait des conneries. Tu sais, par l'absentéisme. Ah, ton fils il va pas à l'école, ah, ton fils il a fait des conneries, machin. Donc, en gros, tu l'éduques pas, tu le cadres pas, tu lui mets pas des roustes, tu lui trucs, donc on te donne plus d'alloc. Tu vois, t'es pas un bon père. Faut déjà y aller. Hein. Donc, moi je dis, bah en fait, on a. Ok, mais alors on met tout le monde à la même enseigne, et donc on prend les gamins, les bulletins de tous les gamins du Lot, de tous les gamins de Dordogne, de tous les gamins d'Alsace chez moi, tu vois, on les prend. Et on fait la misère à tous les parents dont les enfants ont des mauvaises notes. Alors on va les voir et on dit, ok, donc toi déjà je vais baisser ton salaire, toi je vais augmenter ta facture d'électricité, toi je vais... Attends, mais d'où tu prends le... Putain, mais moi, mes parents, si on avait pris mes bulletins, mes parents, mais ils se seraient fait jeter à coups... Bon, il se trouve que je suis français, mais... Et tu vois, on les aurait expulsés à coups de pied dans le cul, quoi. En disant, putain, mais c'est quoi ces notes de... Vous savez pas gérer votre gamin et tout. On en a rien à foutre. Aujourd'hui, je mets la misère à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave, ça changerait. Et donc, de dire à des gamins, à des parents... Mais votre gamin, il a beaucoup d'absentéisme. Tu dis, mec, c'est un préado, putain. Tu vois, mec, c'est un préado, il a pas envie d'aller à l'école. Déjà, tous les enfants français, ils se font chier. Putain, mais qu'est-ce que tu crois qu'un gamin, on lui apprend l'histoire de France, Napoléon, c'est même pas son pays, c'est pas son truc, et on lui prend la tête, le mec, il doit prendre le train, il doit prendre... Putain, mais tu sais, les gens, ils se rendent pas compte ce que c'est de prendre le train. Les mecs, ils savent pas ce que c'est d'avoir un changement à faire, de prendre le train et ensuite prendre le tram et ensuite prendre le bus et ensuite aller dans son collège. Je veux dire, quand t'es pas bien dans tes pompes, tu peux pas le faire. C'est trop dur la vie, quoi. Tu vois ? Et donc moi, ça, je trouve ça aberrant, quoi. Je trouve ça strictement aberrant. Et je dis, si on le fait, alors à ce moment-là, on le fait à tout le monde, quoi.
Alors, j'entends les chats derrière qui démarrent, donc tu vas bientôt être mobilisé. Avant, je voudrais. Tu nous parles un peu de ton engagement que tu as chez toi, de cette manière que tu as de faire des films, un peu. Tu fais beaucoup de choses toi-même, hein, et très engagé dans la vie associative aussi. Alors, c'est Strasbourg chez toi, tu as dit, hein, c'est ça ?
Ouais, moi je suis à Strasbourg. Alors, en gros. Moi, j'ai fait un choix très tôt, parce qu'au début, quand je faisais pas de film, il fallait bien que je bouffe. Donc, du coup, j'ai fait un choix très tôt, qui n'était pas de faire de films de pub, de faire de films de boîte, parce que je sais pas faire. Il y a des gens qui font ça très très bien. Puis, j'ai pas envie de me battre avec des mecs pour avoir des contrats avec la SNCF ou Adidas. Enfin, je m'en fous, quoi. Du coup, moi, j'ai décidé que mon plan, c'était l'éducation à l'image et la transmission, quoi. Donc, j'ai monté une boîte, qui est ma boîte de prod. Et j'ai développé une activité tout de suite très forte, très volontariste, avec un groupe de copains autour de la transmission et de mecs qui justement ont un savoir-faire et cherchent à le transmettre. Donc on a créé un groupe de formateurs. Puis très vite, je me suis rendu compte que ça passait pas en fait sous statut privé, qu'il fallait une asso pour avoir des subventions et tout. Et du coup, on a créé une asso qui s'appelle Réplique, de laquelle je suis président depuis la création et directeur artistique, et avec laquelle on a développé les activités. Et aujourd'hui, Réplique, c'est la structure d'accueil des ateliers de l'image, qui est qui aujourd'hui, peut-être en 10 ans, on doit être à... On a un Vimeo, je pense qu'il y a 150 films dessus, ou un truc comme ça. On fait beaucoup d'ateliers théoriques, beaucoup d'ateliers pratiques. On a un groupe de formateurs, on met notre matos en commun, on va là où le cinéma n'existe pas, là où les gens veulent pas aller, là où ça pue. On bosse avec les purs campagnards, les mecs qu'on choisit entre la boxe TF1 et le multiplex. On bosse avec les handicapés, on bosse avec les gitans, on bosse avec les clodos, on bosse avec les mecs des Maüs. Bien sûr, on bosse aussi dans les lycées, dans les écoles classiques, quoi. Mais en gros, on va là où le cinéma n'existe pas, là où ça pue, quoi, là où c'est crade, quoi, on aime bien. Et du coup, avec notre asso, on a développé un pôle de production de films associatifs qui sont beaucoup plus faciles en termes de prod que les films que je sors, là, par exemple. Et enfin, on a développé un festival de films documentaires qui s'appelle Kings of Doc, qui a commencé à Strasbourg, qui est aujourd'hui à Berlin. Parce qu'on est des amoureux fous, en fait, tu vois, du documentaire, et on avait vraiment envie de mettre en avant, voilà, certains films qu'on voyait justement ou en venant à Jindou ou en allant dans d'autres festivals. Et donc on a décidé de développer ça. Et parallèlement à ça, voilà, j'interviens dans différents milieux pour parler de cinéma, et j'ai monté ma boîte de prod qui s'appelle Projectile. Et j'ai pas vocation à produire d'autres films que les miens, je sais pas faire, en fait. Mais moi, ça me permet de m'intéresser un petit peu au business qui touche à mes films, parce que quand je m'investis 7 ans, 8 ans, 10 ans ou 15 ans dans mes films, j'estime un petit peu quand même avoir le droit de me mêler de tout ce qui touche à la légende du film, quoi, à la mythologie. Et donc, avoir une boîte de prod, ça me permet quand même de m'intéresser à ces questions-là, les questions de budget, de machin. Et du coup, ouais, j'ai commencé en tant que monteur, puis après j'ai commencé à écrire des films, puis après j'ai commencé l'aventure du divan, donc à réaliser, j'ai produit d'autres films, et mon film juste avant qui s'appelle Comme elle vient, qui était mon deuxième film entre Le divan du monde et Maître, À un moment, j'étais dans une situation où je voulais travailler avec un distributeur, mais son plan de sortie en fait, national ne me plaisait pas. Et du coup, je suis devenu distributeur moi-même. J'ai appelé CNC, j'ai dit voilà, j'ai une boîte de prod, je veux devenir distributeur, billetterie commerciale, CNC et tout, comment on fait. Et du coup, j'aime bien aussi cet aspect, ça me permet après de discuter un peu avec tout le monde, de quand même connaître un peu voilà, les différents enjeux, de savoir de quoi on parle. Et ça me permet aussi d'être moins con quand je fais d'autres films en face de ces gens-là. Parce que quand on me dit, ben ouais, mais moi, en tant que distrib, je peux pas me permettre ça, ou en tant que producteur, je peux pas me permettre ça, ben maintenant, je comprends. Tu vois, parce que j'ai déjà fait et parce que je comprends les systèmes, les logiques dans lesquelles ils travaillent, les dynamiques. Et ça, avant, je ne le comprenais pas et j'ai besoin de le maîtriser. Voilà.
Et alors, du coup, je suis curieux, le prochain film, dans quel bureau tu vas nous ramener en fait? Quel sera ce prochain huis clos?
Tu mets la pression. Non, la vérité, c'est que je n'ai pas encore le sujet. Par contre, je pense que ça va être la même chose que. Ça pourrait de nouveau être un film de bureau. Mais si je fais un film de bureau, il va falloir que je fasse un film à l'extérieur à un moment, entre temps, avant que parce que vu que ça prend de toute façon, mes prods elles prennent tellement de temps, j'aurai le temps de faire un ou deux films entre temps, un peu plus petit. Je pense qu'il faut que je fasse un truc à l'extérieur à un moment, parce que ça peut pas être ma spécialité. Mais je pense que ça, la sélection du projet va se passer de la même manière. C'est-à-dire que je vais proposer 4-5 films, 4-5 projets à mon producteur. Et que lui, en termes de stratégie, de savoir, parce que j'ai envie de continuer à bosser avec lui, j'ai envie de continuer à bosser avec les mêmes équipes. Et donc, je ne vais pas commencer en me mettant tout le monde à dos et en partant seul dans un projet dont personne ne veut. Je préfère, comme surmettre, je préfère tout de suite soumettre un projet, qu'on me dise, nous, c'est sur celui-là qu'on a envie de s'engager, c'est celui-là qu'on sent. Et je pense, vu que c'est ça qui m'intéresse de retravailler avec eux, je pense que je vais partir dans cette direction. Mais le lieu, je ne le connais pas encore, frérot.
D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Vraiment, un grand merci pour ce film. J'espère que beaucoup de gens vont le voir, pour que les gens prennent conscience un peu de ce qui se passe dans ces bureaux, justement, dans ces bureaux d'avocates.
Ben, merci à vous de ouf pour l'accueil, ce nouvel accueil. C'était super cool de vous retrouver.
Bon, merci beaucoup, Sven.
Ben, merci à vous, les gars.
Du 21 au 28 août, c'est les 37e rencontres cinéma de Jindou.
Joli village de Jindou. Et alors avec votre accent, ça fait Jindou. Je me disais, mon Dieu, ils ont des gens qui sont doux, c'est bien ça.
En salle ou sous les étoiles, d'archives en avant-première, de cours en long-métrage, on vagabonde d'idées en réalité, tout en faisant le tour du monde en images avec des films présentés par ceux qui les font et ainsi rencontrer ces raconteurs d'histoires lors des tchatches quotidiennes.
C'est des films qui peuvent se lire à plusieurs niveaux.
Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, une image, c'est une idée. Hein. Mm-hmm. C'est plusieurs idées même, c'est une série de signes, donc ça parle du monde. En fait, c'est faire du cinéma, c'est participer du travail intellectuel collectif de l'humanité, je veux dire, bien entendu. Donc c'est vrai que le cinéma est une des manières. Donc.
Durant le festival, Antenne Doc vous livre le programme en détail le matin à 9h. Et à 19h, retrouvez les réalisateurs, publics et autres personnes présentes sur les rencontres cinéma.
Je dis toujours que toute sa vie, on devrait rester nomade de l'interrogation plutôt que sédentaire de la certitude.
Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire même à un niveau individuel, tous les jours, se reposer la question tous les matins quand on se réveille, de se demander qu'est-ce que c'est que notre action sur le réel dans lequel on est, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on fait.
Sur place, de quoi se restaurer, lire avec la librairie de Saran, des apéros-concerts et plein d'autres choses encore à découvrir durant les 37e rencontres cinéma de Jindou du 21 au 28 août. Pour retrouver toutes les infos sur les rencontres cinéma de Jindou, direction la toile internet à l'adresse jindou.org.